Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augure, c'est moi votre hôte Frédéric. Aujourd'hui, je vous présente un cas qui m'a particulièrement affecté. Mais avant de commencer, juste une petite chose. J'ai commencé à vendre la marchandise sur Redbubble, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Mais j'ai vu que c'était vraiment cher, donc j'ai réussi à baisser les prix. Là, ça a plus d'allure, mais je fais pratiquement pas de profit, c'est juste pour la visibilité, donc gênez-vous pas pour aller encourager. Et du même coup, vous allez avoir des articles dans le vent pour épater vos amis ou toute la galerie. Et en plus d'avoir diminué les prix, je vais mettre un lien dans la description. Je me souviens pas c'est quoi le nom du site, mais c'est un site pour avoir des coupons rabais. Donc tu peux avoir un rabais de 10 à 15% de plus. Mais bientôt, je vais remonter mon atelier de sérigraphie, donc pour les t-shirts, ça va être vraiment moins cher, vu que je vais les produire moi-même. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. On va débuter sans plus tarder. Aujourd'hui, je vous présente le cas de Louise Parton, une vraie crise de folle. J'ai découvert ce cas-là il n'y a pas longtemps, et sérieusement, c'est un drame qui aurait pu être évité. Les motifs qui ont amené Louise à faire les gestes qu'elle a commis dépassent vraiment l'entendement. Je vais faire un petit survol de son enfance pour vous montrer comment elle était, même étant jeune. C'est ça, c'est d'après un des membres de sa famille qui a décidé de garder l'anonymat. Semble-t-il que dès un jeune âge, Louise ne s'intégrait pas vraiment aux rencontres et aux activités familiales. Tous les autres membres de la famille prenaient ça vraiment à cœur. Presque à chaque dimanche, ils se rencontraient tous pour voir leur grand-mère Joy. Leur rencontre se faisait souvent chez leur tante. Mais Louise, elle restait là à rien faire dévisager toutes les autres. Et elle n'aimait pas qu'on l'approche. Déjà à un jeune âge, elle était très sournoise et manipulatrice. En parlant de leur grand-mère, cette personne déclara « Elle disait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond avec Louise. Ma grand-mère a toujours eu un bon jugement. » Quand on lui présentait quelqu'un, elle pouvait nous dire si quelque chose clochait avec cette personne. Et pour Louise, on peut dire qu'elle ne s'était pas trompée. Ça doit pas être le fun pour une grand-mère d'avoir un sentiment comme ça pour un de ses petits-enfants. En vieillissant, après son passage à quelque part, il y a toujours des choses qui disparaissaient. Et quand quelqu'un confrontait Parton, elle éclatait d'une crise de rage. Même étant très jeune, elle avait déjà un sale caractère. Et à l'adolescence, ça n'a pas aidé non plus. Ça a fait qu'empirer. Elle a toujours bien aimé l'argent, et c'est le genre de personne qui s'excusait jamais. Elle était violente, et quand elle voulait infliger du mal à quelqu'un, elle le faisait toujours par surprise, et quand les adultes avaient le dos tourné. Elle avait l'air pas trop reposante, disons. Encore d'après mes membres de famille... Semble-t-il que dès que Parton a découvert sa sexualité, elle couchait avec n'importe qui et tout le monde. Mais j'ai pas été surpris de l'apprendre. Elle avait plus un penchant pour les hommes qui étaient confortables dans leur situation financière. Au fil des ans, elle s'est vraiment éloignée du reste de la famille. Elle a même refusé d'aller visiter sa grand-mère sur son lit de mort à l'hôpital. Et elle ne s'est pas présentée aux funérailles qui se déroulaient quelques jours après. C'est la seule des proches qui s'est pas montrée. Et elle est au courant. C'est pas ça la raison. La raison qu'elle a donnée, c'est qu'elle avait pas le temps. Une femme très occupée, on doit dire. Et bien sûr, tout ça a laissé un goût amer dans la bouche des autres membres de la famille. Et beaucoup d'entre eux ont cessé toute communication avec Parton due à sa conduite assez déplorable, on doit l'avouer. Ça fait pas mal le tour sur l'enfance et la vie de Louise Parton avant les événements tragiques que je vais vous conter ensuite. Mais comme vous voyez, ça semblait une charmante personne que tout le monde veut dans son entourage. Donc les événements que je vais vous conter qui sont particulièrement affreux se sont déroulés au début des années 2018. Louise Parton est maintenant une jeune femme âgée de 21 ans qui réside dans la ville de Rugby, situé à Warwickshire, en Angleterre. Une ville d'environ 77 000 habitants. Porton est maintenant mère monoparentale de deux filles. Lexi Draper, alors âgée de 3 ans, et Scarlett Vaughn, qui elle avait 16 mois. Ces deux filles n'ont pas le même nom de famille dû au fait qu'ils n'ont pas le même père, semble-t-il. Mais ça, c'est totalement faux. Elle a juste tout inventé ça pour que le père ait pas de droit de visite avec la petite dernière Scarlett. Parce qu'elle voulait pas que M. Draper voie ses filles. Et c'est une des raisons pourquoi elle a déménagé à Rugby. Je sais pas d'où qu'elle vient exactement, je m'en souviens pas. Ayant eu ses enfants à un jeune âge, elle a eu la chance d'avoir beaucoup de support de sa famille, en particulier de sa sœur Karen. Comme plan de carrière et profession, semble-t-il qu'elle était modèle. Et elle arrondissait ses fins de mois en faisant le plus vieux métier du monde, qui est bien sûr travailleuse du sexe. J'ai pas trouvé son portfolio de modèle, mais j'aurais bien aimé ça voir ça, le genre de contrat qu'elle a eu. Parce qu'elle est vraiment pas très jolie, tout en restant polie. Elle a l'air d'être pas mal plus vieille que son âge et pas très en santé. Ah non, je déconne, fuck la politesse. Elle a dû faire des publicités contre la vivisection parce que elle a l'air vraiment d'un rat albino s'évader d'un laboratoire de cosmétiques qui a jamais vu le soleil. Comme passe-temps, je sais pas trop ce qu'elle aimait, pis je m'en fous. Mais il est à noter que faire du shopping, c'était en haut de sa liste. Quand je dis qu'elle aimait bien faire du shopping, c'est le stade où tu négliges tes enfants pour aller sucer des queues pour assouvir cette dépendance. J'ai rien contre les travailleurs et les travailleuses du sexe, j'ai juste de quoi contre Louise Porton. Vu de l'extérieur, l'année 2018 semble commencer très désastreusement pour Porton et sa petite famille. Une malédiction semble planer sur eux. Mais ça, c'est évidemment juste vu de l'extérieur. Car dans la soirée du 2 janvier, Porton logera un appel aux urgences et déclarera que la petite Lexi a un malaise et demande à avoir une ambulance. Pour ensuite annuler en prétextant que le père de la petite venait de rentrer à la maison et qu'il pouvait se rendre à l'hôpital en voiture. En débutant, c'est déjà louche, car, comme je l'ai dit, elle était monoparentale et le père des enfants n'était pas dans le décor. Porton emmena Lexi à l'hôpital et après un court séjour, ne sachant pas trop ce qu'elle avait, son état s'était stabilisé, donc elle a eu son congé. De retour à la maison, c'est très peu de temps après, soit le 4 janvier 2018, aux petites heures du matin, que Porton logea un autre appel aux urgences. Cette fois-ci, semble-t-il que sa fille Lexi était en arrêt respiratoire. Je cite un petit bout. Je crois qu'elle a été malade, elle est couchée sur le dos et elle a eu une crise hier. Il y a de la maladie qui sort de sa bouche. Bien sûr, c'est traduit de l'anglais, mais c'est environ les termes qu'elle a utilisés. Il y a de la maladie qui sort de sa bouche. Les paramédics sont arrivés sur les lieux et ont pu réanimer la petite Lexi. Elle fut amenée à l'hôpital pour passer des examens. Après de multiples tests, les spécialistes, ne sachant pas trop ce qu'elle avait, ont cru à une infection pulmonaire. Elle fut mise sous antibiotiques et elle eut son congé 4 jours après, soit le 8 janvier 2018. Mais c'est malheureusement le 15 janvier 2018, aux petites heures du matin, qu'un troisième et dernier appel aux urgences sera fait par Porton au sujet de Lexi. Cette fois, elle raconta à la réceptionniste qu'elle a découvert la petite Lexi inanimée et sans vie dans son lit. La mort de Lexi sera confirmée à l'arrivée des secours, qui n'ont rien pu faire pour la sauver. Son corps était déjà froid à leur arrivée. L'autopsie sera menée par le docteur Philip Cox, qui en a conclu que la mort de Lexi n'était pas suspecte, mais n'a pas pu identifier aucun signe d'une mort naturelle non plus. Dans le jargon du métier, je pense que ça veut dire qu'il s'est pas trop cassé la tête. Il me semble que si tu vois aucun signe de mort naturelle, ça augmente les chances que ça soit suspect, d'après la logique des choses. D'après certains proches, après la mort de Lexi, Porton ne montra pas vraiment d'émotion et semblait vraiment détaché de la situation. Mais elle a quand même montré des émotions au service funéraire de Lexi. Ouais, beaucoup l'ont vu en train de faire des conférences vidéo avec un homme et de rire et de bien s'amuser. Je sais que chaque personne est différente et personne vit le deuil de la même façon, mais dans le cas de Porton, elle est coupable. On va pas se le cacher, c'est elle qui a tué Lexi, mais malheureusement, ça continue, ça s'arrête pas là. car 17 jours après, soit le 1er février 2018, seulement 2 semaines après la mort d'Alexis, la petite Scarlett subira le même sort. Les événements qui suivent, c'est d'après la version que Porton a racontée aux policiers. Elle est en route pour l'hôpital avec Scarlett, car semble-t-il que la petite était tombée gravement malade. Mais en chemin, elle a dû arrêter dans une station-service pour faire le plein d'essence. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est là qu'elle a vu que l'état de la petite avait empiré et décida d'appeler les secours. Mais elle composa alors le 111, qui en Angleterre est la ligne pour les cas mineurs. Pour les urgences, c'est le 999. Le 111, c'est plus comme info santé, j'imagine, pour nous autres. Donc c'est ça, un autre comportement assez douteux. N'importe qui de sensé qui aurait perdu un enfant 2 semaines avant appellerait direct aux urgences. D'après Porton, Scarlett dormait à l'arrière de la voiture. La réceptionniste lui a demandé alors si elle pouvait tenter de la réveiller. Porton a alors répondu non, car elle est morte. À l'arrivée des secouristes, Porton leur expliqua que c'est sûrement une mauvaise grippe qui l'a tuée. Tout comme qu'elle a tué sa sœur Lexie 2 semaines avant. Les secouristes trouvaient alors que Porton ne semblait pas trop affecté par la mort de sa 2e fille. Elle était bien relaxe et ne montra pas vraiment d'émotion. Le corps de Scarlett était lui aussi déjà froid, signe qu'elle était déjà morte depuis un moment et que Porton avait attendu pour appeler les secours, sûrement pour éliminer toute chance de réanimation. 2 enfants morts en seulement 2 semaines. Là, je pense que ça a sonné une alarme à quelque part, parce que suite à la mort de Scarlett, c'est un médecin légiste autre que le Dr. Cox, assisté d'un pédiatre légiste, pas sûr si c'est les termes exacts. Des fois, mes traductions de l'anglais, j'ai un peu de misère avec les termes. J'en perds mon français, on dirait. Ils ont mené une autopsie et ils ont conclu que c'est une mort non naturelle par obstruction des voies respiratoires. Puis suite à ce résultat, ils mèneront une 2e autopsie sur la dépouille de Lexie. Ils ont conclu pour Lexie aussi qu'elle est morte d'une mort non naturelle par obstruction des voies respiratoires. Et c'est ensuite que la police de Warwickshire lancera une enquête entourant la mort des 2 enfants. C'est le 20 mars 2018 que Porton sera mis en état d'arrestation en lien avec la mort de Lexie Scarlett. Elle sera chargée de leur meurtre le 25 janvier 2019. Porton déclarera qu'elle n'a rien à voir avec la mort de ses 2 filles et qu'elle est innocente. Donc, elle plaidera coupable et son procès commencera le 4 juillet 2019. Et en cours, Porton tentera de tromper les membres du jury en jouant la carte de la bonne mère qui se souciait de ses 2 filles. Le même baratin qu'elle prétexta tout au long de l'enquête. Et elle plaidera aussi qu'elle n'a jamais regretté d'avoir eu Lexie ou Scarlett. Et je la cite. Elle me donnait toujours quelque chose à faire. Je les emmenais à des endroits comme au parc pour jouer. J'essayais de leur donner tout ce qu'elles voulaient. Mais sa petite prestation n'a pas eu grand effet sur les membres du jury car elle n'a montré aucune émotion tout au long de son procès. Elle fut questionnée sur les appels qu'elle a logés aux urgences, dont entre autres pourquoi elle a appelé le 111 au lieu du 999. Porton déclara alors que ça ne me semblait pas une urgence. Ah, tellement pas une urgence que, à l'arrivée des secours, 8 minutes plus tard, la petite Scarlett était déjà morte sans aucune chance de réanimation possible. Porton, ça semble pas une femme très intelligente. Elle a laissé de nombreux facteurs incriminants, dont des échanges de textes et des recherches Internet qui ont été faits les jours entourant la mort des 2 petites. 2 jours avant la mort d'Alexis, Porton a fait des recherches Internet sur les sujets tels que des enfants qui seraient morts dus à des complications avec le virus de la grippe. Ça semble pas trop incriminant pour commencer, mais ça continue, bien sûr. Le lendemain de la mort de Lexie, elle a accepté 41 demandes d'amitié d'hommes sur un site de rencontre. Et ensuite, elle a cherché pour combien de temps une personne peut être ressuscitée après s'être noyée. Et si c'est vrai qu'on chie dessus quand on meurt. Elle a aussi visionné des articles sur un jeune ramené à la vie après s'être noyé. Elle a aussi recherché combien de temps ça prend pour qu'un corps refroidisse jusqu'aux épaules. Et aussi 5 choses bizarres qui arrivent quand on meurt. Des recherches assez douteuses quand même. Et aussi, Joe, avant que Lex meure, elle a envoyé un message texte à un homme disant qu'elle passait vraiment un mauvais moment parce que sa fille de 3 ans était vraiment malade d'une grippe mortelle et que le médecin lui avait annoncé qu'elle allait mourir. Et ça, c'était totalement faux. Personne n'y avait annoncé qu'elle allait mourir. Donc, ça montre un signe de préméditation. Si vous n'êtes pas convaincu, l'élément d'après aussi. Donc, le soir de la mort de Scarlett, elle a envoyé quelques messages avec l'application WhatsApp à un dénommé Patrick. C'est pas mal juste Porton qui envoie les messages. Ça va comme suit. Porton, pourrais-tu me transférer 30$ dans mon compte en banque pour de l'essence? Je dois conduire ma fille à l'hôpital et je te rembourse mercredi. Toujours Porton, elle ne va pas bien. Si tu peux, laisse-moi savoir. Je ne vais pas en perdre un autre. Je ne veux pas perdre un autre bébé. Donc l'homme qui s'appelle Patrick, qui me semble un peu sensé, lui dira alors « Appelle l'ambulance, ne perds pas de temps. » Porton lui répondra alors qu'elle a déjà appelé puis qu'ils lui ont dit de se rendre elle-même. Ça aussi, c'est totalement faux. Elle n'a jamais appelé les urgences. À part, évidemment, quand elle arrêta la station-service et qu'elle était bien sûr que la petite Carlette était morte. Il sera aussi prouvé qu'en plus des 41 demandes d'hommes sur le site de rencontre qu'elle a accepté le lendemain de la mort d'Alexis, elle a aussi arrangé des rendez-vous avec des hommes en échange d'argent. Pendant que sa fille est à l'hôpital, il a aussi été démontré qu'elle a pris des photos d'elle, les seins nus, quand elle était à l'hôpital pour Alexis, qui était aux soins intensifs. Bon, pour sa défense, elle témoignera qu'elle faisait juste prendre des photos d'elle-même, que c'est ça son métier, puis qu'elle le fait quelques fois par mois. C'est du travail payé. Elle vend aussi des photos à l'aide de son téléphone cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'elle faisait ses arrangements et ses transactions à des jours inopportuns. Ah, avant que ça me sorte de la tête, parce que je ne l'ai pas noté. Aussi, pendant que Alexis était à l'hôpital, Porton a réussi à avoir le numéro d'un des agents de sécurité et ils ont échangé des messages dont elle avait l'habitude d'échanger avec des hommes, là. Des messages assez explicites, souvent échangeant une somme monétaire. Comme je l'ai dit, pendant le procès, elle démontrait tellement peu d'émotion que les membres du jury se demandaient même si... elle n'était pas atteinte d'un trouble psychologique du genre autisme. Mais elle a été suivie et c'est sûr que la défense serait servie de ça. Mais non, elle est bel et bien saine d'esprit. Avant que la sentence soit donnée, les proches des victimes ont pu faire un témoignage sur l'impact que le crime a eu dans leur vie. Et le père des deux victimes, M. Draper, a fait un témoignage très touchant et déchirant. En voici un petit extrait.
Je suis complètement démoli. Je ne serai plus jamais le même. Je cesse de me demander pourquoi Louise a fait un acte aussi horrible à mes deux filles. Elle n'était qu'un inconvénient pour elle. Pourquoi ne pas me les avoir laissées? Quand nous avons pris conscience pour la mort d'Alexis, nous avions le cœur brisé. Et ensuite, nous avons été dévastés d'apprendre pour Scarlett. Je n'ai passé que très peu de temps avec Alexis. Et j'ai même pas eu la chance de rencontrer Scarlett, ce qui est encore plus douloureux. Ils vont nous manquer dans chaque occasion qu'on aurait pu célébrer avec eux. Leur anniversaire, leur premier jour d'école, leur cheminement dans la vie, se marier, former une famille. Mais tout ça nous a été enlevé. La perte de Alexis Scarlett n'a pas qu'affecté notre famille immédiate. Le seul réconfort est de savoir que Alexis et Scarlett sont ensemble. Et nous voulons remercier tous les gens pour leur support et leur aide.
C'est ça, son procès a duré environ 4 semaines, et avant de donner la sentence, la juge Amanda de Yip a fait un discours. Je vais vous en citer quelques extraits, imaginez-vous que c'est une femme qui parle.
En date du 15 janvier 2018, vous prétendez avoir découvert Alexis inanimé et sans vie dans son lit. La cause de la mort ne fut pas identifiée immédiatement. 17 jours plus tard, vous avez tué Scarlett. Comme pour Alexis, vous avez essayé de passer sa mort pour cause naturelle. La vérité est que les deux enfants sont morts car vous avez volontairement bloqué leur voie respiratoire. Le cou de Scarlett démontrait des signes évidents de compression. Pour Lexi, c'est à moi apparent, mais maintenant les résultats ne laissent aucun doute que vous l'avez tuée elle aussi. Vos recherches Internet et vos messages textes démontrent un degré de préméditation. La nuit où Scarlett est morte, vous avez envoyé plusieurs messages à des gens en leur disant que Scarlett était très malade et que vous alliez peut-être la perdre elle aussi. Ces messages ont débuté très peu de temps après votre retour à l'hôtel où vous demeuriez. Mais sur les enregistrements vidéo du système de sécurité de l'hôtel, on peut voir Hervé sur les lieux avec Scarlett et elle semble en parfaite santé. D'une façon ou d'une autre, vous avez enlevé la vie de vos deux filles, en seulement appelant les urgences quand vous étiez sûr qu'elles étaient mortes. Et c'était votre intention de tuer vos filles. Pourquoi? Seul vous en connaissez les motifs. Ceux qui aimaient Lexi et Scarlett ne comprennent toujours pas comment vous avez pu faire une chose aussi monstrueuse. Vos actions ont dévasté tant de vies. Le meurtre de tout enfant par leur mère implique le pire abus de confiance. Lexi et Scarlett étaient de jeunes enfants très vulnérables. Ils voyaient leur mère comme quelqu'un qui devait prendre soin d'eux et les protéger. Mais au lieu de cela, vous avez pris leur vie.
C'est le 2 août 2019 qu'elle fut jugée coupable pour le meurtre de ses deux enfants. Et elle a seulement eu 32 années de prison. Ouais, les actes qu'elle a commis puis la perte des deux petites, ça a affecté vraiment beaucoup de monde. Car malheureusement, le 2 février 2020, le corps de Sharon, la mère de Louise Parton, a été retrouvé sans vie à son domicile situé dans le Willen Hall. Elle est âgée de seulement 48 ans. C'est son conjoint qui a fait la macabre découverte. Les enquêteurs y ont conclu un suicide. D'après les proches de Sharon, elle était tourmentée par les erreurs que sa fille avait commises 2 ans auparavant. Aussi semble-t-il que ce qui n'a pas aidé, c'est qu'en plus d'être tourmentée par ces erreurs-là, il y a plein de langues sales sur Internet qui envoyaient des messages de haine puis qui la tenaient responsable quand elle avait rien à voir là-dedans. Ouais, parce que elle parlait même plus à sa fille Louise depuis un bon moment. La dernière conversation qu'il y avait eue, c'est au sujet de la mort de Lexi et Scarlett, puis ça a fini que Louise a poussé Sharon à terre puis l'a frappé au visage. Suite à ces événements-là, ben Sharon a renié sa fille Louise et il a plus jamais redressé la parole. Et voilà, ça tire pas mal sur sa fin, le dossier Louise Parton. Infanticide, c'est pas nouveau. Mais je l'ai trouvé tough, celle-là, plus que d'habitude, parce que normalement, le père ou la mère qui commet ces actes aussi incompréhensibles sont majoritairement en état psychologique assez instable, ou ils le font par vengeance, genre pour faire souffrir un ex-conjoint en y enlevant les enfants. Dans le cas de Parton, ils ne semblent pas avoir vraiment de raison apparente. À part peut-être le fait que ces deux filles se trouvaient dans le chemin de ce qu'elle voulait faire de son temps. Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça quand même. Là. En Angleterre, les peines sont aussi sévères qu'au Canada, on doit dire. Juste 32 ans pour avoir tué ses deux enfants. Tout ça prémédité, c'est prouvé. Et elle n'a jamais avoué, elle a tout le temps plaidé non coupable. Même malgré toutes les preuves qui pesaient contre elle. Donc, elle méritait la peine de mort, mais malheureusement, la peine de mort est abolie en Angleterre. Mais 32 ans, c'était pas assez. Ça me sidère bien raide quand que des criminels de même ont des petites sentences. Juste savoir qu'elle va être libre dans le début de sa cinquantaine, ça me donne le goût de vomir. Mais qu'est-ce qui est pire dans tout ça, c'est que comme en début de l'épisode, j'ai dit, tout ça aurait pu être évité car il y a vraiment eu beaucoup de plaintes au service de protection de l'enfance, ou je sais pas comment ça s'appelle en Angleterre, comme un peu la DPJ, j'imagine. Tout ça dû au comportement de Parton face à ses deux enfants, qu'elle les laissait souvent seule, puis elle était pas là, puis c'est ça. Mais ils ont décidé de pas suivre cours à tout ça. Donc, ça a coûté la mort de deux petits-enfants qui avaient toute la vie devant eux. Ah, ce bon vieux système, toujours là pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Sur ce, on s'approche de la fin, c'est fini avec Louise Parton, bon débarras. Ah, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter mon podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est sûr qu'il était un peu lourd. Mais c'est ça le monde du true crime. Donc, si vous avez aimé aussi, vous pouvez liker, vous abonner et commenter sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Et aussi, en parler à vos amis, le bouche-à-oreille, ça fait jamais de mal. Donc, vous pouvez me contacter aussi pour me donner vos avis sur les cas que j'ai touchés. Vous pouvez faire ça par le groupe Facebook Mauvaise Augure ou me contacter à mauvaiseaugurepodcast@gmail.com. Et aussi, n'oubliez pas, cet été, si vous voulez être dans les dernières tendances de la mode avec la merch Mauvaise Augure sur redbubble.com. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Barrez votre porte et fermez vos volets.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Pour l'instant.